Voici la chronique de Pierre.
Ouais, c'est moi.
Rasta président a une vision merveilleuse de la paix. Il compte la garantir avec une bombe atomique de ganja.
Heureusement que la taxe sur la vaseline n'augmente pas. Oh. Nous en aurons bien besoin.
On est quand même con de pas y avoir pensé avant. 17h31, salut à tous, vous êtes en direct pendant 30 minutes à mes côtés pour Le Lance-Pierre, la troisième émission qui donne la parole aux associations. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir comme association le RUSF 35, une association étudiante. Et quel est donc l'invité qui va parler avec moi pendant 30 minutes? Eh bien, c'est la présentation immédiate. Au RUSF 35, que dis-je, sur le ring depuis 2007. Elle se bat pour les personnes sans papier. Elle a enfilé ses gants, elle est prête à donner des coups. Va-t-elle faire plier, mettre KO la préfecture? C'est Eva Kairoz. Bonjour Eva.
Bonjour tout le monde.
Sympa la présentation. Je demande toujours aux invités si ça leur plaît cette présentation.
Ah non, franchement, en plus, ça me correspond bien. Donc, ça
t'es fait une battante,
plaisir.
C'est ça?
Tout à fait, ouais.
Et bah, c'est vrai que le RUSF 35, quand on y participe, faut vraiment se battre. Parce que bon, bah, tu vas évidemment nous présenter quelle est cette association. Mais faut vraiment, quand on s'implique dedans, on s'implique. C'est vraiment, faut être à fond dedans, quoi.
Bah oui, c'est vrai que c'est une question qui est quand même assez délicate. Hein. Je pense que tout le monde voit un petit peu comment on peut considérer les étrangers de nos jours. Donc pour pouvoir justement permettre aux étudiants d'étudier de manière normale et décente, nous, on essaie de faire tout ce qu'on peut justement pour qu'ils puissent acquérir les mêmes droits que n'importe quel autre étudiant.
Mmh. Donc vas-y, dis-nous, c'est la question la plus large de l'émission, le RUSF 35, qu'est-ce que c'est, ces actions, qu'est-ce que vous défendez?
Donc en fait, à la base, donc le RUSF, c'est Réseau Université Sans Frontières. C'est un réseau national, mais qui est composé de groupes locaux. Et à Rennes, nous, on est l'antenne d'Ille-et-Vilaine. Donc concrètement, nous, on aide les étudiants étrangers dans toutes leurs démarches juridiques ou administratives, que ce soit pour faire des démarches auprès d'organismes comme le CROUS, la CAF, différentes sortes d'assurances, les universités et bien sûr la préfecture pour obtenir des titres de séjour. Donc on peut aussi orienter les étudiants vers des avocats spécialistes du droit des étrangers quand ils reçoivent...
Vous êtes carrément en contact avec des avocats?
Bah oui, tout à fait. En même temps, c'est nécessaire vu qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, justement. Quand un étudiant étranger a des problèmes de papier, même quand un étranger a des problèmes de papier, il est obligé de faire souvent un recours au tribunal administratif, puisque en général, la préfecture, quand elle décide de ne pas donner de titre de séjour, donne une obligation à quitter le territoire français. Ce qui veut dire un avis d'expulsion qui prend soit effet quasi immédiat ou on peut avoir juste 30 jours pour le contester au tribunal. Donc c'est important pour nous de pouvoir orienter les étudiants vers des avocats spécialistes, justement qui pourront défendre au mieux leurs intérêts et au mieux leurs droits. Et ce sont aussi des avocats en général qui prennent l'aide juridictionnelle. Ça veut dire que donc les personnes sont dispensées d'avance de frais. Et donc c'est l'État qui prend en charge les frais d'avocat. Sauf que voilà, cette aide, c'est une aide dont on peut bénéficier qu'une seule fois dans sa vie. Et en général, une personne reçoit plus d'une OQTF dans sa vie. Donc c'est aussi pour ça que nous, on doit trouver d'autres moyens pour se mobiliser et pour permettre justement de les défendre au mieux. Après, cette aide, elle peut se présenter sous différentes formes. Donc on fait vraiment, nous, du travail de terrain où on peut justement, comme je vous l'ai dit déjà, intervenir auprès des administrations ou de la fac pour pouvoir les inscrire, pour leur permettre d'avoir des aides sociales.
Et comment vous intervenez? Vous arrivez cash comme ça et parce que c'est quand on n'a pas de papier, on ne peut pas s'inscrire. Où c'est qu'on peut s'inscrire? On ne peut pas s'inscrire du tout, non?
En fait, on peut s'inscrire à l'université même sans avoir de papier, vu que les structures publiques ont interdiction de demander des titres de séjour quand une personne veut s'inscrire. Donc si elle le demande, elle est hors la loi. Donc une personne même qui n'a pas de papier, justement, peut quand même s'inscrire à l'université. Et c'est justement souvent avec cette inscription à l'université qu'elle peut avoir un titre de séjour étudiant. Puisque c'est vrai que sinon c'est assez compliqué, enfin les démarches sont très très compliquées. Et donc on est là aussi justement pour permettre aux gens de mieux comprendre les démarches, de savoir justement quelle est la marche à suivre pour pouvoir obtenir un titre de séjour, les papiers qu'il faut fournir pour faire un dépôt de dossier. Et nous, après, on les suit dans toutes leurs démarches. Donc soit on monte des dossiers d'inscription auprès notamment des universités. On peut aussi monter des dossiers au tribunal administratif, justement quand ils reçoivent une obligation à quitter le territoire français. Et principalement, ça se représente en écrivant ou en récoltant des lettres de soutien. On peut aussi faire signer des pétitions. dans le cadre d'une mobilisation ou pour pouvoir compléter un dossier, parce que c'est vrai qu'une pétition toute seule, sinon, elle n'est pas forcément très utile.
Ça
ne
va pas avoir le même apport, quoi.
Exactement. Et on peut aussi, quand nécessaire, monter des mobilisations avec, bien sûr, l'accord des étudiants et quand l'avocat aussi est parti pour...
C'est-à-dire monter des grosses manifs, c'est ça ?
Exactement, ça peut être aussi plein de choses différentes. Voilà, faire des manifestations pour aller jusqu'à la préfecture, faire des mobilisations au niveau du tribunal administratif. Après, ça dépend. L'année dernière, par exemple, on a monté une mobilisation collective, vu qu'on avait pas mal d'étudiants qui se retrouvaient avec des problèmes quasi similaires. Donc, on trouvait que c'était beaucoup plus pertinent de monter une mobilisation pour défendre tous ces étudiants en même temps. Même si c'est pas toujours évident, parce que y a souvent des périodes où les étudiants se retrouvent pas forcément ou confrontés au même problème ou sont pas au même stade de leur démarche. Donc il peut arriver justement que notre dernier recours, nous, c'est de monter une mobilisation pour soutenir un étudiant en particulier, même si nous, on défend vraiment tous les étudiants et même tous les étrangers et personnes sans papier en général.
Et lors de vos manifs, est-ce que vous vous sentez soutenu par les étudiants? Est-ce que le public auquel vous vous adressez, il est assez réceptif à vos actions? Parce que c'est quand même une question assez tendue, l'immigration, tout ça. C'est quand même un gros débat, donc c'est un peu compliqué, je suppose.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très épineux, vu qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises images, je trouve, moi, qui sont véhiculées vis-à-vis des étrangers. On essaye souvent de les faire passer pour des profiteurs ou des criminels, alors que ce sont des personnes qui ont juste envie de venir en France travailler ou étudier, qui demandent juste à pouvoir soit exercer une profession ou pouvoir suivre un cursus de manière normale. Et nous, on essaye aussi de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas non plus considérer les gens justement comme une personne qui va venir ou voler son travail ou prendre sa place dans une école, alors que c'est vraiment une grande richesse et ce sont vraiment des personnes comme les autres qu'il faut aussi aider et soutenir, parce qu'elles sont vraiment, justement, je trouve, pas du tout considérées comme des personnes. Mmh. Et c'est vrai que c'est plus facile de mobiliser des gens quand il y a une situation un peu humanitaire, je dirais. Par exemple, quand la personne est menacée d'être emprisonnée dans son pays ou menacée de mort, que sur des problèmes beaucoup plus quotidiens, en fait, et qui sont pourtant beaucoup plus présents aussi, et qui sont pour moi aussi importants que le reste, parce que moi je pense que chacun devrait avoir le droit d'étudier de manière correcte, sans être inquiété en se disant qu'on va peut-être se faire expulser du jour au lendemain, qu'on pourra peut-être pas finir ses études, qu'on va être dans une situation très précaire. Et pour une personne aussi qui veut travailler, après il y a beaucoup de situations différentes, et pour moi c'est quand même un sujet d'ensemble aussi qu'il faut voir de manière globale. Mais et voilà, nous, on essaye vraiment aussi de montrer aux gens qu'il y a, à mon sens, un traitement qui est complètement différent pour une bonne partie des étrangers.
Mmh. On sent en tout cas, là, à ta voix, que t'es motivée, là, t'es à fond. Qu'est-ce qui te motive dans ce combat ? Parce que les problèmes des étrangers, quelque part, voilà... Si je parle de manière strictement égoïste, ça ne nous regarde pas nous, puisque ce n'est pas nos problèmes à nous. Donc nous, on est bien dans notre petite vie. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, il faut que je combatte pour ces personnes, pour les aider? Qu'est-ce qui t'a motivé?
Moi, déjà, à la base, je lutte contre toute forme de discrimination, que ce soit une discrimination que je vais appeler raciale, utilisons les mots tels qu'ils sont, mais toute forme de discrimination, que ce soit discrimination sexiste ou en fonction d'un handicap, de ton âge. Mais pour moi, en fait, la question des étrangers est quand même une des questions les plus importantes de notre société, parce que je trouve que c'est, on va dire, une catégorie de population qui est très stigmatisée et justement pour lesquelles je pense qu'il faut aussi lutter pour leur permettre d'avoir des droits, des vrais droits, qui ne soient pas justement de la poudre aux yeux ou des choses de façade, mais qui puissent vraiment pouvoir avoir des droits pour pouvoir vivre correctement, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue, qui sont en situation de demande d'asile, qui ne peuvent pas travailler, qui sont dans des situations précaires. Enfin, après, on pourra en rediscuter plus longuement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et pour moi, c'est quand même un grand problème, parce que justement, comme je disais, on va beaucoup stigmatiser les étrangers. On va toujours les faire passer un petit peu pour des voleurs ou des personnes qui viennent profiter du système, alors que c'est vraiment pas le cas. Donc c'est pour ça, moi, surtout, que je m'engage là-dessus.
Et pour reparler des OQTF, obligations à quitter le territoire français, si je ne me trompe pas, une fois que cette OQTF est dépassée, c'est-à-dire que si la personne reste, elle est donc hors la loi, est-ce que vous, en l'aidant, vous pouvez être arrêté parce que vous l'aidez? Est-ce que vous aussi, vous êtes du coup compris selon la loi? Vous êtes est-ce que vous aussi, vous êtes hors la loi? Voilà, tout simplement.
En fait, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais il y a quelques années, il y a eu... Il y a plusieurs lois qui sont passées et une qui pointait notamment ce qu'on a appelé le délit de solidarité, qui condamnait les personnes et toutes les associations ou les structures qui aidaient les étrangers. C'est quelque chose qui a été supprimé très récemment, alors que pour moi je trouve que c'est complètement un non-sens de condamner une personne parce qu'elle est solidaire de quelqu'un d'autre.
Mais c'est un truc de fou quand même. Tu vas en taule parce que t'as aidé, c'est vrai que c'est assez bizarre, ouais.
Donc moi je trouve déjà que le fait qu'on puisse créer ce genre de loi, c'est complètement, c'est complètement insensé, c'est complètement inhumain. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois, beaucoup de textes de loi que je trouve complètement absurdes. Et ça faisait partie de ça, mais ça ne nous a pas empêchés quand même de continuer à les aider, parce que justement, on se dit, plus on essaye de nous mettre une opposition forte, plus nous...
Plus ça vous motive.
Voilà, exactement.
La musique de Rocky, elle est donc vraiment bien avec ce que tu es. C'est vraiment un truc de fou, quand même.
Oui, parce qu'en même temps, on se dit qu'il y a tellement d'injustices et tellement de choses qui ne devraient pas exister qu'il faut se battre davantage, justement, pour essayer de rétablir un équilibre, en fait.
Mmh. En tout cas, donc, c'est la préfecture qui décide si oui ou non la personne a le droit d'avoir des papiers.
Oui, tout à fait.
Quels sont tes rapports, Eva, avec la préfecture? Tu as dû y aller bien souvent, non?
Oui, c'est vrai qu'on s'y rend assez régulièrement, que ce soit pour déposer des dossiers de régularisation. Après, moi, j'ai plus particulièrement accompagné des étudiants. Et c'est vrai que le rapport est assez compliqué parce que la préfecture se dédouane quand même beaucoup en disant qu'elle n'est pas décisionnaire, qu'elle ne fait qu'appliquer les lois, alors que justement, les lois, elles restent quand même très... très sujette à une libre interprétation. Elles sont précises, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de latence. Il y a quand même beaucoup d'interprétations qui peuvent se faire par les préfectures. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir que selon les différentes préfectures, les personnes ne seront pas forcément traitées de la même manière ou les textes de loi ne seront pas appliqués de la même manière. Et qu'il y a toujours une libre appréciation du préfet. Il y a beaucoup d'arbitraire. Et pour moi, en général, c'est beaucoup d'arbitraire en plus dans le mauvais sens. Donc après, c'est vrai que les rapports ne sont pas au beau fixe hein, parce que la préfecture défend des intérêts qui sont complètement différents des nôtres.
Mmh. Et la préfecture, est-ce qu'elle est dépendante du parti politique qui est au pouvoir?
Après, c'est vrai que le cabinet préfectoral peut changer quand il y a un changement de gouvernement, ce qui s'est avéré avec l'élection de François Hollande et le Parti socialiste qui est arrivé au gouvernement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça arrive même d'ailleurs souvent que des personnes qui travaillaient dans une préfecture, par exemple sous un régime de droite, se trouvent encore en activité sous une politique soi-disant de gauche. Et de toute façon, on pourra aussi en rediscuter, mais là, la préfecture à Rennes a bien durci ses positions depuis que le Parti Socialiste est au gouvernement, alors que normalement, ça devrait être l'inverse.
Bon, on peut même en parler maintenant. Pourquoi en rediscuter? Parlons-en maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur maintenant avec le Parti Socialiste? Est-ce qu'ils avaient déjà promis qu'ils seraient moins sévères que la droite?
Un peu. Mais normalement, c'est vrai que de toute façon, les positions du Parti Socialiste sont depuis assez longtemps à droite sur le sujet de l'immigration. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que c'est la gauche qui a décidé d'ériger les centres de rétention et qui a mis en place les charters. Et qui, avant l'ère Sarkozy, avait expulsé le plus d'étrangers. Sauf que c'était une politique qui se faisait souvent par derrière, en fait. C'était quelque chose qui était beaucoup plus dissimulé. Mais on voit que... Là, ce qui a changé, c'est que c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus montré, c'est un petit peu plus mis en avant, parce que, avec notamment les évacuations des camps de Roms, peut-être une partie d'entre vous a déjà pu constater à travers différents médias, qu'il y a quand même des agissements qui se font de manière assez frontale, mais qu'il y a quand même toujours des choses qui se font de manière plus dissimulée Et en fait, les positions du Parti socialiste, elles ne se sont pas vraiment... attendries. Elles sont restées dans le sens de l'UMP, même s'il y a, comme notamment le délit de solidarité qui a été supprimé, il y a eu quelques petits aménagements, mais fondamentalement, ça reste la même chose.
Ouais, donc en tout cas, votre combat, il n'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas.
Non, certainement pas, surtout en ce moment.
Bon, alors là, on va commencer une petite information un peu insolite. Bon, évidemment, quand on parle d'étrangers, bon, c'est un peu caricatural, mais tout de suite, on pense au racisme. Et donc, j'ai cherché des petites informations comme ça sur le racisme et j'ai trouvé cette information qui date de juin 2012 sur le site de France Info. Alors, un des dirigeants du parti d'extrême droite hongrois Jobbik vient de découvrir qu'il a des origines juives et il est connu en fait pour son antisémitisme et il est totalement anti-rom aussi. Et c'est l'eurodéputé, alors j'espère que je n'écorche pas trop son nom, c'est Xanad Zeghedi. Et il reconnaît quand même qu'il lui faudra un certain temps pour diriger la nouvelle. Parce que voilà, il a appris donc que ses parents avaient des origines juives, notamment sa grand-mère qui en plus est une survivante de l'Holocauste. Donc pour un antisémite, c'est pas top. Et pour vous montrer aussi un peu l'ambiance dans le parti, il y a un de ses collègues qui avant même cette révélation avait demandé l'autorisation de procéder à un test génétique visant à prouver qu'il n'avait pas de sang juif ou rom dans les veines. Donc voilà, c'est vrai que je trouve ça assez drôle d'être c'est totalement antisémite, mais il découvre. Voilà, qu'il a des origines juives. Je trouve ça assez fou. Ça m'a rappelé une histoire avec un couple et de blancs, voilà, un couple de blancs. Et ils ont un enfant noir. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Le mec, tout de suite, il se dit, elle m'a trompé. Et en fait, non, il s'est avéré qu'ils avaient des origines qui remontaient à super loin, des origines africaines. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment... moi, ça m'a fait marrer, en tout cas. Voilà, ça m'a bien fait rire. Et voilà, on va rester un peu dans... le racisme et en rigoler un peu avec une petite musique qui va passer de Eric Cartman qui va nous parler des minorités dans son parc aquatique. Eric Cartman, South Park, hein, donc l'ambiance, vous imaginez, qui va être assez, assez dingue. Et Max Boublil qui a fait une petite chanson pour rire ensemble contre le racisme en 2011.
Et je pense que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les petites phrases toutes faites qu'on se dit les uns aux autres. Et j'aimerais vous chanter une chanson qui dénonce tout ça. Merci. Musique. Il faut arrêter de dire que les noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la carte bleue et la visa. Il faut arrêter de dire que les arabes sont des voleurs. Parfois ils ne font qu'emprunter et le rendre au commissariat. Il faut arrêter avec toutes ces idées-là. Parce qu'aujourd'hui on est tous ensemble dans le même combat. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois.
Je reconnais plus cet endroit, je comprends pas ce qui s'est passé. Avant c'était trop bien, trop marrant, de voir ça, ça me fait flipper. Le rêve est mort, c'est plus chez nous, dans mon cœur y'a un trou et je le déplore. Y'a beaucoup trop de minorités dans mon parc aquatique. Parc aquatique, c'était chez nous. Notre rêve, ils sont venus et l'ont brisé. C'est fou, l'en sort de partout. Minorité, essayez de prévenir la police, mais même les autorités viennent des minorités dans mon parc aquatique.
Guarde sus brazos y piernas dentro del paseo siempre.
Me parle pas étranger.
Voilà. La belle conclusion d'Eric Cartman, ne me parle pas étranger. Alors Eva, est-ce que tu as déjà eu des retours comme ça oui, il y a trop de minorités en France, je ne reconnais plus la France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit ça par exemple?
Oui, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'étais en train de faire de l'affichage pour le RUSF au Resto U et j'ai discuté avec quelqu'un justement à ce sujet et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit « Je ne suis pas raciste, mais des fois, j'ai l'impression de ne plus être dans mon pays. »
Comme ça, cache.
Oui.
Mais je trouve ça un peu fou quand même. Mais est-ce qu'il y a vraiment autant d'étrangers qu'on le dit en France?
Absolument pas. En fait, le taux d'immigration est quand même assez faible. Si vous regardez les chiffres, hein, vous pourrez trouver justement que il y a pas tant d'immigrés que ça, et il y en a pas plus. Il n'y en a pas plus qu'avant, hein. Sauf que moi, je pense que la différence, elle se fait dans la mesure où il y a eu des immigrés européens qui ont été amenés volontairement par les gouvernements quand ils en ont eu besoin, et que depuis plusieurs années, en fait, ce sont aussi des immigrés non européens qui sont arrivés en France, que le gouvernement n'avait pas forcément demandé à la base, qu'il n'avait pas voulu, et que du coup, c'est aussi pour ça, moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus rejetés par la société. C'est parce que, enfin voilà, c'était pas de l'immigration choisie, comme ils appellent, mais plutôt de l'immigration subie. Et donc voilà, moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là, en fait.
Bon, en tout cas, pour en revenir sur le racisme, ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moins, on en rigole facilement. C'est ça qui est assez génial, je trouve. On se marre beaucoup, bah, comme on vient de l'entendre avec Eric Cartman ou Max Boublil. Et également OSS 117, qui est un film, alors ça j'adore, où il y a plein de références justement racistes, misogynes, enfin la totale. Toi qui défends les étudiants étrangers, ça va, rigoler du racisme, il n'y a pas de problème. Genre la chanson là, t'as pas choqué? Il y en a qui ont été choqués, donc c'est pour ça que je dis ça. Moi j'y vais quand même. Je t'avais pas prévenu que j'allais mettre une chanson comme ça, j'espère juste que j'ai pas froissé l'invité, quoi.
Bah en fait, moi je pense que ça dépend vraiment de la démarche qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des gens qui tiennent ce genre de propos, mais qui le disent sérieusement, parce qu'ils sont profondément racistes. Et il y a des personnes, justement, qui essayent de détourner ces discours-là pour les rendre ironiques, et puis essayer de dédramatiser aussi, je pense, un petit peu cette question.
En tout cas, c'est vraiment réussi, moi j'adore. On va en revenir quand même au RUSF 35. Depuis que tu protèges les étudiants étrangers, est-ce que il y en a qui malheureusement sont repartis?
Oui, il y en a eu quelques-uns. Il y en a pas eu beaucoup, puisque c'est vrai que surtout avant, il y avait quand même beaucoup plus de chances de pouvoir régulariser un étudiant. Depuis la création du RUSF, en fait, le RUSF est créé à Rennes depuis 2006. On avait eu avant l'année dernière que 3 expulsions. En sachant que pour tous les autres, on avait réussi à obtenir des papiers, bah, que ce soit par des mobilisations ou par différentes sortes de démarches. Et là, en fait, la situation, comme je vous disais, elle est beaucoup plus compliquée parce que la préfecture a des positions qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Et il y a des personnes qui devraient avoir des titres de séjour qui n'en ont pas. Et là, dernièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expulsions, que ce soit... Pas forcément même qu'au niveau des étudiants, mais au niveau même de familles, de demandeurs d'asile, il y a eu beaucoup d'expulsions. Et la préfecture, enfin à l'heure actuelle, elle a un refus quasi systématique des demandes, même des personnes qui rentreraient dans les critères qui ont été fixés par les lois, qu'en plus, moi, je trouve qu'ils sont complètement, comme je vous l'ai dit, complètement absurdes.
Vas-y, parle-nous de ces critères, puisque c'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé de comment on les obtient, ces satanés papiers. Comment on les obtient?
Grâce... un magnifique décret qui a été pondu le 6 septembre 2011 pour un étudiant étranger. Maintenant, un des critères principaux, c'est d'avoir des conditions de ressources minimum. C'est-à-dire, en fait, un étudiant étranger doit justifier d'au moins 620 euros par mois sur les 10 mois d'année universitaire. Donc, ce qui correspond même à un niveau beaucoup plus élevé que l'échelon maximum des bourses. En sachant qu'en plus, ces étudiants n'ont pas forcément le droit de travailler. Donc, pour avoir 620 euros par mois sur son compte sur 10 mois, vous imaginez un petit peu...
Et comment il peut prouver qu'il les a, ces euros? Il faut qu'il ait 6000 euros sur son compte et...
Soit il faut qu'il puisse justifier d'un versement mensuel au moins égal à 620 euros par mois, soit il faut qu'il ait, dès la rentrée, 6200 euros sur son compte en manque.
Ce qu'on a tous à la rentrée, évidemment.
Exactement, oui, c'est sûr.
Non, mais j'aimerais bien avoir cette somme, en tout cas, dès la rentrée, ça me plairait vraiment.
Oh, pas qu'à la rentrée, en tout
cas. Ah oui, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Et j'aurais voulu savoir si la fac t'aidait, toi et ton mouvement. Parce que des fois, c'est quand même ses étudiants à la fac.
Oui, après, c'est vrai que sur Rennes 2, on a beaucoup plus de soutien que sur Rennes 1. On a notamment la possibilité d'avoir des lettres de soutien de la présidence quand on le demande pour des étudiants qui font des démarches auprès de la préfecture. Mais la présidence applique aussi la stratégie. Enfin, je ne vais pas vraiment dire la stratégie puisque la présidence n'applique pas de stratégie, mais applique aussi ce qui est la stratégie justement politique et du gouvernement et de la préfecture, c'est-à-dire de traiter les gens au cas par cas. Donc ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas faire de courriers généraux par exemple pour permettre à tous les étudiants qui ont des problèmes en même temps d'obtenir des papiers, qui sont obligés de faire des lettres individuelles par exemple. Après, au niveau de Rennes 2, il y a quand même des choses qu'on a réussi à faire, notamment permettre à des étudiants d'être exemptés de certaines démarches pour pouvoir s'inscrire à la fac. Enfin, je vais expliquer un petit peu parce que là, ce n'est pas forcément très clair. Parce qu'un étudiant étranger, avant de venir en France, il doit faire ce qu'on appelle une demande d'autorisation préalable, mais il ne peut la faire que jusqu'au mois de décembre de l'année précédant la rentrée à laquelle il veut commencer ses études. Donc, par exemple, là, un étudiant qui veut commencer ses études en septembre de l'année prochaine n'a que jusqu'à fin décembre pour faire cette demande d'autorisation préalable. En sachant que, par exemple, une personne qui est en situation de demande d'asile n'a pas forcément ni le temps...
Ouais, tu choisis pas...
Tu choisis pas quand est-ce que tu quittes ton pays, donc tu vas pas forcément faire la démarche...
Surtout que des fois, quitte des pays pour des motifs assez graves, qu'on peut pas prévoir, hein, je pense, pour les plus graves, des guerres ou des conditions...
Ou des persécutions, de la misère, enfin, il y a beaucoup de
raisons... Créer sa boîte, c'est possible.
Il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser des gens à quitter leur pays. En plus, des fois, ce sont des gens qui ont des situations dans leur pays, mais qui sont quand même obligés de le quitter pour arriver en France, en se retrouvant quasiment à la rue, avec aucun moyen financier. Et nous, on a réussi justement à obtenir que les demandeurs d'asile soient exemptés de cette demande d'autorisation préalable, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, quoi. C'est... Après, voilà, on a agi aussi à d'autres niveaux, notamment parce que un des principaux arguments de la préfecture pour ne pas donner un titre de séjour à un étudiant étranger, c'est si l'étudiant étranger a redoublé ou s'est réorienté. Parce qu'il considère soit qu'il y a eu une non-progression dans son cursus universitaire, alors que je pense que c'est quand même arrivé à beaucoup de gens de redoubler au moins une fois dans sa vie, ou justement, s'il se réoriente, il considère qu'il y a eu une incohérence dans son cursus, et donc trouve qu'il n'y a aucune raison qu'il reste en France, alors que ça arrive aussi à n'importe quel étudiant français, des fois, de se tromper de filière ou de se rendre compte que ce n'était pas forcément ce qu'il voulait. Mais si, pour un étudiant étranger, ce choix n'est pas motivé par un projet professionnel, il n'a aucune chance d'obtenir des papiers.
Et quand un étudiant étranger qui n'a pas de papier, il se fait arrêter, il arrive où ?
Donc déjà, il reçoit ce qu'on appelle donc une obligation à quitter le territoire français. Après, il peut être placé en centre de rétention. C'est une prison pour sans-papiers. Enfin, voilà, c'est là où on place les gens en vue de leur renvoi. Sauf que déjà, moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait pas exister, dans la mesure où ce sont des personnes qui ont absolument commis aucun crime ou aucun délit. Elles n'ont juste pas de papiers. En général, bien souvent, à cause des lois ou à cause de la préfecture qui refuse de leur donner, et se retrouvent emprisonnées à cause de ça. Après, les gens peuvent aussi être assignés à résidence. C'est justement pour des personnes qui ne sont pas forcément expulsables tout de suite. On décide de les bloquer à leur domicile quand elles en ont un, ou sinon à une autre adresse où elles doivent justement pointer deux fois par semaine auprès de la police aux frontières pour être sûres qu'elles ne se sont pas enfuies.
Ouais, c'est de la surveillance, hein ?
Complètement, oui. C'est du flicage.
Bon, il nous reste tout juste une minute. Ça va être le bon moment pour donner des informations, les petites informations sous la rue SF35, comme vos réunions.
Oui,
c'est
donc
où, c'est quand ?
On organise des réunions hebdomadaires le mardi soir à 18h30 dans le bâtiment F du campus de Villejean. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dès demain. On vous attend nombreux pour pouvoir justement discuter davantage de...
De tout ça, ouais, parce qu'une demi-heure, c'est vrai que c'est court pour en parler. Il n'y a pas de salle précise, mais c'est quand même indiqué, c'est quand même indiqué la salle où vous serez.
On met une feuille sur la porte du bâtiment, vu que on n'a pas de local, donc on se débrouille comme on peut, vu que c'est aussi...
À la bonne franquette. Et un blog qui a été tout juste créé, www.rusf35.eklablog.com. Il est 17h.
Et par contre, le blog, il sera pas en activité avant le 10 décembre.
Ok, très bien. Merci pour l'information. Il est 18h. Vous êtes sur le 88.4 Radio Campus Rennes. Et tout de suite après, vous aurez le plaisir d'entendre sur écoute toute l'équipe qui va vous faire ce que vous aimez le plus. Voilà. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais en tout cas, je sais que ça va être super puisque c'est sur Radio Campus Rennes. Et vu que vous êtes tous bien ici, qu'on est tous très bien, il n'y a pas de raison de partir. Et donc, comme je dis si souvent, vous avez intérêt à y rester.
Voici la chronique de Pierre.
Ouais, c'est moi.
Rasta Président a une vision merveilleuse de la paix. Il compte la garantir avec une bombe atomique de ganja.
Heureusement que la taxe sur la vaseline n'augmente pas. Oh. Nous en aurons bien besoin.
On est quand même cons de pas y avoir pensé avant.